Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, c'est un scrutin historique et au résultat tout à fait incertain qui se tient ce jeudi dans la région espagnole de Catalogne. L'élection des nouveaux députés au Parlement intervient dans un contexte politique très tendu. Madrid a placé la région sous tutelle après la déclaration d'indépendance des élus catalans le 10 octobre dernier. D'anciens membres du gouvernement sont emprisonnés et poursuivis par la justice alors que l'ancien président est en exil à Bruxelles. Les sondages annoncent un coup d'à-coup très serré entre les blocs indépendantistes et unionistes et bien malin celui qui pourra prédire le scénario d'après scrutin. Car beaucoup d'électeurs sont encore indécis, on évoque le chiffre d'un million de personnes. À quelques heures du vote, Laetitia Farin est allée prendre le pouls des électeurs dans le village d'Arenys de Munt, fief indépendantiste situé à une heure de Barcelone.
Sur presque toutes les façades d'immeubles, on aperçoit des drapeaux catalans accrochés au balcon. La couleur jaune, symbole de l'indépendantisme, se retrouve aussi à chaque coin de rue d'Arenys de Munt, sous forme d'affiches collées sur les murs ou de rubans accrochés à des réverbères. Un pied de nez des habitants à la commission électorale qui a interdit cette couleur sur les bâtiments publics et les fontaines de Catalogne pour éviter qu'elle influence le vote de ce jeudi. Pour Joan Rabaceda, le maire de ce village qui a été le premier à organiser un scrutin sur la question séparatiste dès 2009, ce ne sont pas des élections régionales comme les autres.
Je pense que la participation sera massive, de l'ordre de 75 à 80%. C'est un moment charnière et les citoyens seront à la hauteur de ce moment historique. Nous souhaitons être une république catalane et il est vrai que ces élections se sont radicalisées, mais tout cela va au-delà du oui ou du non à l'indépendance, car ce qui se joue, c'est le oui ou le non à la démocratie.
Parmi les indépendantistes convaincus d'Arenys de Munt, beaucoup de personnes hésitent encore entre le parti de la gauche républicaine et le parti Ensemble pour la Catalogne de l'ancien président de la Generalitat, Carles Puigdemont. C'est le cas de Raquel Carrillon, 44 ans.
Il y a des choses qui me plaisent et qui me déplaisent dans les deux camps. À l'heure actuelle, le plus important pour moi, c'est que l'indépendantisme l'emporte. Comment je vois le futur ? Eh bien, cela dépendra des résultats. Je suis indépendantiste, mais je ne veux pas de l'indépendance si ce n'est pas le souhait de la majorité des Catalans. J'aimerais un référendum qui soit accepté par tous.
Sur la place principale du village, Maria Buendia, 49 ans, prend un café avec des amis. Ce jeudi, elle pense voter pour le bloc des unionistes, mais elle ne sait toujours pas pour quel parti exactement.
J'estime ne pas avoir assez d'informations pour pouvoir choisir mon candidat. Je dois me contenter de voter pour un parti que je connais déjà. J'aimerais qu'un candidat explique vraiment le programme qu'il compte appliquer au cours de son futur mandat, car 90% du discours des partis politiques consiste à critiquer les autres partis, pas à défendre leur programme.
Selon les derniers sondages, l'issue du scrutin devrait être très serrée entre le bloc des séparatistes et celui des unionistes et tout pourrait se jouer à 1 ou 2% près. Si des résultats partiels devaient être annoncés ce soir dès 22h, le décompte officiel des bulletins, lui, ne commencera que le 24 décembre et pourrait prendre 3 jours.
On l'a vu, le climat politique et le climat tout court sont particulièrement tendus en Catalogne. Tous gardent en mémoire l'intervention policière qui a fait de nombreux blessés à Barcelone le 1er octobre. Des journalistes sont poursuivis pour injures. Alors pour dénoncer ce climat, un dessinateur de presse a lancé cette semaine avec des collègues un journal satirique, l'Illegal Times. Abla Jonaidi a rencontré la rédaction du journal.
Veille de scrutin à Barcelone, les rédactions sont en effervescence, y compris celle de l'Illegal Times. Mais ce journal n'est pas comme les autres, il est né cette semaine d'une urgence, celle de rire. Après la violente réponse policière, la prise de contrôle partielle des institutions catalanes par le gouvernement espagnol, le débat d'idées est devenu presque impossible. La commission électorale, particulièrement tatillonne, est allée jusqu'à interdire l'usage du petit bandeau jaune en hommage aux leaders emprisonnés. Mais Jaume Capdevila, alias Cap, l'a quand même fait figurer sur le titre de son journal illégal.
L'humour satirique, c'est toujours de la provocation. En provoquant, on combat l'indifférence. Ce qui nous dérange, c'est que dans une situation aussi grave que la nôtre, où certains droits fondamentaux sont remis en cause, les gens restent indifférents. Et nous, on veut que les gens réagissent. Et si la provocation est divertissante, ludique, tant mieux. car l'humour fait appel avant tout à l'intelligence, à la complicité, à des valeurs positives.
25 dessinateurs d'Europe et du reste du monde ont répondu à l'appel de Jaume Capdevila avec des dessins qui moquent en particulier l'absence de réaction des dirigeants européens. Et même si en France, en Italie ou ailleurs, on ne comprend pas toujours les demandes des séparatistes, peu importe, assure le dessinateur catalan.
On a des gens qui n'adhèrent pas spécialement à la cause indépendantiste, mais qui croient qu'il faut lutter pour protéger nos droits. C'est la richesse de ce journal d'avoir des gens de toutes tendances, mais qui se mettent ensemble pour défendre la liberté d'expression, de manifestation pour tous, que l'on soit indépendantiste ou non.
La première édition de ce mensuel va être distribuée gratuitement à 10 000 exemplaires en version papier et en ligne. Jaume et son équipe espèrent ne pas avoir à travailler à une deuxième édition en janvier, non pas parce que ça coûte cher, plaisante-t-il, mais parce que ce serait un mauvais signe pour la démocratie espagnole.
Je vous invite maintenant à monter à bord du nouveau train qui, depuis le 10 décembre, relie l'Ukraine au reste de l'Europe, Kiev, Vienne. Plus qu'une nouvelle desserte, c'est tout un symbole pour un pays qui multiplie les gestes de rapprochement avec l'Europe. Un voyage rendu plus facile aussi depuis la libéralisation du régime de visa Schengen pour les Ukrainiens en juin dernier. Sébastien Gobert était l'un des tout premiers voyageurs à effectuer ce trajet.
14h07, heure de Kiev. Le train s'ébranle. Lentement, très lentement, le contrôleur Grigory Faïchenko garde la porte du wagon ouverte pendant de longues minutes avant que le train ne prenne de la vitesse. Il n'y a pas vraiment de raison de se presser. Enfermé dans notre wagon couchette, il nous faudra plus de 23 heures pour desservir des dizaines de villes. Parmi les plus importantes, Lviv à l'ouest de l'Ukraine, Chop à la frontière hongroise, Budapest et enfin Vienne à 1300 km d'ici.
C'est la première fois que je vais à Vienne. J'avais travaillé sur quelques trajets internationaux mais jamais pour Vienne.
Ina Tsimbalouk est l'hôtesse en charge du wagon.
C'est intéressant ces trajets. Les passagers sont toujours plus calmes que sur d'autres lignes, plus raffinés, plus polis, plus reconnaissants aussi.
Ce 11 décembre, nous sommes 4 passagers à avoir un billet pour Vienne. La correspondance a été inaugurée la veille, le 10, en même temps que d'autres itinéraires, vers Bucarest, Bratislava ou encore Prague. C'est la première fois en 10 ans que la capitale ukrainienne est reliée à autant de villes européennes.
Il y a une demande croissante pour ces trains, en particulier après la libéralisation du régime de visa Schengen.
Avant le départ, à Kiev, nous avions rencontré Oleksandr Krasnostan, vice-directeur du département du transport étranger pour la Compagnie nationale des chemins de fer, au Krzaleznytsia.
C'est un choix de civilisation qui permet à nos citoyens d'aller en Europe. Grâce à ces trains, l'Ukraine se rapproche de l'Europe. C'est très important.
Une fois le train lancé, on se rend vite compte que le trajet sera long. Ce n'est pas l'Orient Express, il n'y a pas de wagon-restaurant, ni même de buffet. Ina Tsimbalouk peut offrir du thé, du café et des bouteilles d'eau. On peut très vite se sentir à l'étroit dans les compartiments quand les 3 couchettes sont dépliées. Un des passagers, Saïd Moukim, se réjouit au contraire du charme du voyage.
Je n'ai pas l'impression que c'est très long. Par autobus, ce serait la même durée. Et c'est plus confortable que le bus. On peut s'allonger, se mettre à l'aise. Et puis, comparé au prix en Union européenne, le prix est très abordable.
Un billet Kiev-Vienne coûte environ 80 euros. Une somme modique par rapport à l'avion et à la voiture. Et par rapport au bus, c'est une assurance de confort et de ponctualité. Après 6 heures de route, nous arrivons à Lviv. De nouveaux passagers embarquent et tout de suite, des mécaniciens s'activent sur notre wagon. Le contrôleur Grigory Pachenko.
Là, nous sommes arrêtés en gare. Notre wagon est détaché du reste du train qui va partir dans une autre direction. Nous allons être rattachés à un autre et continuer notre route dans une heure.
Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, c'est l'ancienne Lemberg, longtemps à l'est de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Au début du XXe siècle, un train reliait directement la ville à Vienne et un autre à Venise. La période soviétique avait rompu ses liens ancestraux. Pour les habitants, cette nouvelle correspondance est donc une bonne nouvelle d'un retour vers l'ouest. Oleksandr Krasnostan explique qu'il n'en est qu'au début.
Nous avons des plans très ambitieux pour développer nos services vers des destinations européennes. Nous voulons aller à Berlin, bien sûr, et nous visons aussi les États baltes. À travers la Biélorussie, nous pourrions desservir quatre capitales, Kiev, Minsk, Vilnius et Riga.
Signe des temps modernes, la compagnie ferroviaire se livre à une restructuration en profondeur de son fonctionnement pour aller vers plus d'efficacité et de rentabilité. Certaines lignes intérieures sont modifiées, voire suspendues, au grand désarroi des usagers. Et dans le contexte actuel de guerre hybride avec Moscou, il y a des correspondances qui ne sont pas prêtes d'être développées.
La demande pour les liaisons entre la Russie et l'Ukraine a chuté ces dernières années. Il n'y a plus de besoin. Donc nous ne prévoyons pas de nouveaux itinéraires.
Quand nous repartons de Lviv, le train s'enfonce dans une nuit noire et froide. Mais dans les compartiments, une douce chaleur s'installe et on se laisse bercer. Jusqu'à 1h37 du matin et l'arrivée à Chop, la ville frontière. Il faut alors préparer les passeports pour les contrôles d'identité et de douane. À Chop, les mécaniciens s'affairent de nouveau sur le wagon. Pour des raisons historiques, l'écartement des voies est de 1520 mm sur le réseau ferroviaire post-soviétique et de 1435 mm en Europe. Il faut donc adapter l'écartement des roues. Grégory Fachenko.
Vous voyez, là, ils ont placé le wagon sur un monte-charge. Ils l'ont soulevé et ils changent l'écartement des roues. C'est une procédure habituelle, ça ne prend pas trop longtemps. Et après, hop, on peut filer à travers l'Europe.
En effet, nous repartons très vite pour franchir la rivière Tissa jusqu'au poste frontière hongrois. Ici, les gardes-frontières se montrent bien plus pointilleux. Les Hongrois posent beaucoup de questions et dévissent quelques parois de compartiment pour vérifier s'il n'y a pas de colis de contrebande. Deux citoyens italiens doivent quitter le train parce qu'ils ont un excédent de cigarettes. Un autre passager se dit kurde, il y aurait une irrégularité sur son passeport. Nous repartons sans ces passagers. Grégory Fachenko explique que cela arrive très souvent.
Beaucoup de gens ne sont pas au courant des règles de passage de frontières. Alors ils prennent trop de cigarettes ou d'alcool, pas cher en Ukraine. Ou alors ils tentent le coup avec des faux documents d'identité. On perd des passagers à la frontière très souvent.
Lentement, le train poursuit sa route à travers la Hongrie de l'Est, déjà l'Union européenne. Le plus dur semble fait, mais au réveil, le lendemain matin, l'hôtesse Inat Simbalouk a encore une nouvelle à annoncer.
Notre chauffeur nous a averti à Budapest qu'il y avait un problème électrique sur la ligne en Autriche. Nous avons 1h30 de retard.
Nous n'en sommes plus à 2 heures près et nous recommandons un thé noir en lisant un livre. Dans son compartiment, Saïd Moukim commence pourtant à trépigner.
Ça a été, mais pour être honnête, je trouve le temps un peu long. S'il y avait le Wi-Fi ou une possibilité de surfer sur mon smartphone, ça serait passé plus vite. Mais je ne veux pas me plaindre, ça a été.
En filant plein ouest, le train remonte le bassin du Danube de Budapest à Vienne. Vu du compartiment, les différences d'infrastructure et d'aménagement du territoire frappent, comparées à l'Ukraine. Sur la ligne d'horizon, des éoliennes apparaissent. Un paysage peu fréquent dans l'espace post-soviétique. Soudain, tout se précipite, il faut plier ses draps, ranger son matelas et ramasser ses affaires. Le train arrive à Vienne. Mais pour Grigori et Ina, pas le temps d'aller visiter l'ancienne capitale des Habsbourg.
Nous devons tout de suite préparer le wagon pour le voyage de retour. Nous repartons aujourd'hui, dans 4 heures.
Le sac à dos sur les épaules, on descend gaiement du marchepied, non sans remercier nos hôtes. Plus que l'air frais, c'est la modernité et l'activité de la Hauptbahnhof, la gare centrale de Vienne, qui surprend après tant d'heures passées à l'intérieur. Le voyage dans le train fait l'effet d'un sas, d'une capsule, qui lie sans transition les deux univers parallèles de Kiev et de Vienne, de l'Ukraine post-soviétique et de l'Autriche européenne.
Et si vous n'êtes pas sensible à la lenteur et au charme du train, vous prendrez sans doute l'avion. En France, ce sera l'un des gros dossiers de la rentrée de janvier 2018. Le gouvernement devra décider s'il lance le projet du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou s'il réaménage l'aéroport existant de Nantes-Atlantique. Vous le savez, l'opposition à ce projet est des plus vives depuis des années. Alors pour tenter d'en comprendre la pertinence ou non, voyons voir avec Daniel Vigneron de MyEurope.info comment évoluent les autres aéroports régionaux. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
D'abord en France, est-ce que ce projet de nouvel aéroport se justifie selon vous?
Au-delà de tous les débats qui font rage depuis des années, c'est bien la question centrale. A-t-on besoin d'un nouvel aéroport à Nantes? Les partisans du projet insistent sur la saturation de Nantes Atlantique et des nuisances sonores qui l'entraînent. De fait, la progression du trafic est rapide puisque, avec le développement des vols low cost, on est passé de 3,2 millions de passagers en 2011 à 4,7 millions en 2016 et on devrait approcher cette année les 5,5 millions. Le projet de Notre-Dame-des-Landes vise à terme une capacité de 9 millions de passagers. Mais avec une emprise foncière beaucoup plus considérable que celle de l'aéroport actuel, 1650 hectares contre 315 seulement. La proximité de la ville de Nantes, 8 km, ainsi que l'orientation de la piste qui entraîne beaucoup de survols de la ville ne rendent pas évident les projets d'extension du site.
Est-ce qu'on note des différences en termes de capacité aéroportuaire, Daniel ?
Prenons les pistes. Nantes-Atlantique ne dispose que d'une piste de 2900 mètres. C'est le cas de la plupart des autres aéroports européens, dont parfois la piste unique est plus courte, comme à Newcastle ou Liverpool. Le projet de Notre-Dame-des-Landes prévoit deux pistes, 2900 et 2750 mètres. C'est ce qu'offrent aussi des aéroports comme Palerme, Pise ou Bilbao. Mais ces destinations sont très touristiques, la Sicile, la Toscane ou le musée Guggenheim de Bilbao.
Et en termes de bassin de population, comment se situe Nantes par rapport aux autres villes européennes ?
L'agglomération nantaise, 620 000 habitants, est plus peuplée que celle de Pise ou d'Eindhoven aux Pays-Bas. Mais elle est en revanche inférieure aux agglomérations de Liverpool, Newcastle ou Bilbao, 8 à 900 000, et surtout de Valence en Espagne, 1,8 million. Quant à l'aéroport britannique des East Midlands, il dessert trois agglomérations situées à moins de 30 km. Derby, Leicester, Nottingham, totalisant 1,5 million d'habitants. Si l'on prend en compte les régions, les 3,7 millions d'habitants des Pays de la Loire équivalent à la population de Toscane. Mais c'est nettement moins que la Sicile ou la région de Valence, 5 millions, et surtout que les 7 millions de la grande région de Liverpool.
Qu'en est-il maintenant du transport de marchandises ?
Dans ce match entre aéroports, il faut mettre à part la plateforme britannique des East Midlands, très spécialisée dans le fret et où transitent plus de 300 000 tonnes de marchandises par an. Rien à voir avec Nantes et ses 11 000 tonnes de fret annuel. Notons tout de même que cette activité est plus élevée à Nantes que dans la plupart des aéroports, sous revue à l'exception de Pise.
Donc au regard de ces comparaisons, les atouts de Notre-Dame-des-Landes ne paraissent pas très probants.
C'est vrai Laurent, surtout lorsqu'il s'agit de justifier la construction coûteuse d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire. 556 millions d'euros, mais près d'un milliard avec les coûts indirects. L'activité fret de Nantes Atlantique est certes honorable, mais rien n'indique qu'elle souffre de sous-capacité. En termes d'attractivité touristique, la région a des atouts, comme les châteaux de la Loire ou la Bretagne, mais la grande majorité des touristes européens préfèrent visiter ces sites en venant de Paris plutôt que de s'y rendre via Nantes. Enfin et surtout, les ressources démographiques de la zone et de la région, en comparaison de celles des autres aéroports européens, ne sont pas de niveau tel qu'un investissement si important s'impose.
Est-ce qu'on a vu d'autres aéroports se restructurer en Europe ?
Il y a un exemple intéressant, celui d'Eindhoven dans les années 1980. Pour des raisons de nuisance sonore, il a été décidé de reconstruire la piste avec une orientation nouvelle. C'est ce qui pourrait se faire à Nantes Atlantique pour éviter le survol de la ville. On évoque également l'allongement de la piste pour permettre aux avions de prendre plus d'altitude et donc de faire moins de bruit. Mais en tout état de cause, le projet de Notre-Dame-des-Landes apparaît une nouvelle illustration typique de ces rêves de grandeur français, parfois terriblement déconnectés des réels besoins économiques.
Merci Daniel Vigneron de MyEurope.info.
Bonne fête Laurent et à l'année prochaine.
Et c'est Françoise Golo qui a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 temps universel et sur RFI.fr à la page émission.